2024 touche à sa fin et Apple s'apprête à entamer une nouvelle année qui s'annonce pour le moins chargée. 2025 devrait commencer en fanfare avec l'arrivée d'un nouvel iPhone SE passant enfin à l'USB-C et peut-être à l'OLED. Ce téléphone devrait sortir plus ou moins à la même période qu'un mystérieux écran dédié à la domotique. Il s'agirait d'un tout nouvel appareil pensé pour contrôler les objets connectés de la maison, marquant le début d'une toute nouvelle lignée de produits. L'année sera ensuite remplie des sorties habituelles, Mac, iPhone, Apple Watch. On aurait tout de même droit à quelques surprises avec un nouvel iPhone Air plus fin ou l'arrivée des AirPods Pro 3. Il ne faudrait pas non plus oublier Apple Intelligence et tout ce qui touche au logiciel, des mises à jour qui vont apporter un paquet de nouveautés sur nos appareils. Que nous réserve l'année 2025 d'Apple? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Kernel Panique. Pour en discuter, je suis aujourd'hui avec Anthony, qui a pris une petite pause sur la rédaction du magazine des 25 ans pour venir répondre à mes questions. Salut Anthony.
Salut Félix, salut tout le monde.
Et je suis également avec Nicolas, qui a de son côté épluché toutes les rumeurs sur les futurs produits d'Apple. Salut Nicolas.
Salut Félix et bonjour tout le monde.
Donc comme je le disais, l'année devrait commencer sur les chapeaux de roue, avec un nouvel iPhone SE. Il faut dire que l'ancien modèle n'est plus de première jeunesse, étant donné qu'il est sorti en 2020. Nicolas, les rumeurs, elles voient venir un nouveau smartphone d'entrée de gamme qui a l'air assez intéressant, c'est bien ça?
Clairement, en tout cas, plus intéressant qu'avant. Alors comme tu l'as dit, l'actuel il est sorti en 2020, mais il date pas vraiment de 2020. Son design est calqué sur celui des iPhones d'avant l'iPhone X. C'est un clone en gros de l'iPhone 8, qui lui-même n'avait pas vraiment changé de design depuis l'iPhone 6. Donc tout ça, ça nous fait remonter de 10 ans en arrière, hein. C'était 2014. Désolé pour le coup de vieux. Mais voilà, donc c'est un vieux téléphone, enfin un vieux design. Ouais. Et cette fois, en fait, d'après les rumeurs, en tout cas, Apple se baserait sur l'iPhone 14. Donc là, ça va changer à peu près tout. Le plus grosse différence sera visuelle, c'est-à-dire qu'il y a plus de, il y aura plus de boutons d'accueil à l'avant. On passe sur un téléphone avec Face ID, donc avec une encoche. Il aurait même un écran OLED, d'après ce qu'on sait, sans doute celui de l'iPhone 13. Toujours une encoche, pas de Dynamic Island quand même, mais bon, c'est déjà une belle progression sur le plan visuel, on va dire, et ergonomique. Et à l'intérieur, ça serait même encore mieux, parce qu'on parle de la puce A18. Donc ça, c'est la toute dernière, hein, celle qui est sortie au septembre dernier. Et il y aurait aussi 8Go de RAM, ce qui est le double du SE actuel. Vraiment, on peut s'attendre à des performances qui vont être vraiment en nette hausse par rapport à l'actuel. Et là, on peut remercier Apple Intelligence, pour le coup, parce que c'est pas gratuit. Hein. C'est clairement pour ça, d'après les rumeurs, qu'il le doterait aussi bien. Par rapport à l'iPhone 14, donc la plus grosse différence devrait être côté appareil photo. Comme sur l'iPhone SE actuel, il n'y en aurait qu'un. On perdrait l'ultra grand angle. Néanmoins, on parle de l'appareil photo de l'iPhone 15, donc ça veut dire avec un capteur 48 mégapixels, etc., ce qui en ferait quand même un excellent appareil principal.
Donc on aurait quand même le x2 et le pixel binning et tout ça, ce serait sympa.
Exactement, ouais. C'est sur le papier, en tout cas, ça a l'air même trop beau pour être vrai, mais on verra notamment, il manque la question du prix, ça, les rumeurs sont un peu contradictoires là-dessus. On ne sait pas si ça va être le même prix que l'iPhone SE actuel, auquel cas ça serait une super affaire, ou bien s'ils vont en profiter pour augmenter, on verra. Ça devrait être en tout cas un excellent cru, et puis comme tu l'avais dit en introduction, il ne faut pas oublier que l'iPhone 14, il aura en tout cas un connecteur USB-C à la place du Lightning, contrairement à l'iPhone 14 cette fois, donc plus comme l'iPhone 15. Ça c'est une obligation, l'Europe impose que tous les appareils neufs utilisent ce connecteur, donc l'iPhone SE de nouvelle génération l'aura aussi. Et au passage, d'après nos informations, l'iPhone SE actuel, qui était toujours en vente, va disparaître à la fin de l'année parce que à partir de début 2025, même lui devrait avoir un port Lightning. Donc, à la place, enfin, ils vont pas le mettre à jour évidemment pour si peu, donc ils vont sans doute arrêter de le vendre pendant quelques semaines.
Ouais. Anthony, on s'attend également à ce qu'Apple se lance dans un tout nouveau secteur avec un écran connecté pour la domotique. De ce que j'ai compris, ce sera un équivalent au produit Echo d'Amazon. Est-ce qu'il y a un marché pour ce type d'objet?
Il y en a même deux marchés. D'abord, il y a un marché des solutions intégrées qui est assez bien établi. Alors, c'est des solutions qui sont souvent installées pendant la construction, pas toujours pour des gens qui sont riches à millions, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Aux États-Unis, ça devient relativement répandu. Je pense à des gens comme Control 4, Savin, Crestron, Daisy, Lutron pour les luminaires. Des marques que nos lecteurs connaissent pas, mais qui aux États-Unis sont plus présentes. Et puis à l'autre bout, deuxième marché que les gens qui nous écoutent connaissent probablement mieux, c'est celui des solutions installées a posteriori cette fois-ci, avec des appareils grand public cette fois-ci. Grosso modo, tout ce qui tourne autour d'Alexa, de Google Home, de HomeKit, d'Home Assistant. S'il y a des gens qui nous écoutent sur le haut-parleur, dis Siri, éteins toutes les lumières. Voilà, ça c'est l'autre marché. Amazon, depuis quelques années, clairement essaye de relier les deux bouts. Et on dirait qu'Apple a envie de suivre avec un système qui serait grand public, mais qui, quelque part, permettrait d'entrevoir les possibilités des systèmes professionnels. Et donc, si on est justement dans l'installation a posteriori, avoir quelque chose qui fasse 80% du taf, quoi. La colonne vertébrale, ce serait HomeKit, évidemment. Puis le cerveau, ce serait ce fameux écran qui aurait une position fixe. Hein, l'idée, c'est que ce ne soit pas un iPhone qu'on soit obligé de sortir de la poche ou d'un iPad qu'il faut aller chercher dans le tiroir de la table de chevet et « Ah mince, il n'y a plus de batterie ». Et puis où il n'y a pas de session, il n'y a pas de code, enfin tout le monde dans la maison peut aller vers cet écran et faire ce qu'il veut. Les rumeurs se contredisent ou du moins se mélangent sur la forme de cet écran. Moi j'ai toujours pas compris si c'était un iPad simplifié, un peu comme peut l'être le Amazon Echo Hub, ou si c'était un écran qui était greffé sur un HomePod Mini, un peu comme le Nest Hub de chez Google. Ou est-ce que c'était l'un d'abord et l'autre ensuite, les deux en même temps. Enfin, tout ça se mélange, les choses sont pas très claires, mais enfin, l'avantage est qu'il y a un peu de fumée, donc on peut espérer qu'il y ait du feu à la fin. La grande question qu'on doit se poser, c'est est-ce que Apple Intelligence résout les défauts de Siri ? Parce que le préalable à tout ça, c'est quand même qu'on ait un Siri qui soit capable justement d'éteindre ou d'allumer les lumières, et puis on peut le faire de manière naturelle et enchaîner plusieurs actions naturellement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut faire tout ça avant de parler de la suite. Alors, la suite sera sans doute pas l'an prochain, mais la rumeur parle déjà d'une caméra, voire même d'un téléviseur, soyons fous. L'idée, on voit bien, c'est Apple a été obligé d'ouvrir certains appareils, notamment l'iPhone. Et là, clairement, ils ont envie de refaire un écosystème intégré et fermé.
Et ça t'intéresserait, toi, personnellement, d'avoir ce truc-là chez toi ?
Absolument pas.
Pas du tout, ouais. Okay. Et toi, Nicolas ?
Alors un écran pour contrôler domotique carrément, c'est une idée que je veux tester depuis longtemps, mais pas un écran Apple, ça m'intéresse pas tellement. Okay. Ce que je compte faire en fait à court terme, c'est tester un de ces écrans tactiles qu'on met à la place d'un interrupteur mural. Ça dans le monde de Home Assistant, c'est assez courant, il y en a plein. Et ça me semble pas mal comme idée pour, comme disait Anthony, avoir des contrôles un peu plus sophistiqués que juste une télécommande ou...
Ouais.
Sur deux choses où typiquement moi, je vais mettre ça dans mon salon où il y a plein d'appareils connectés, il y a plusieurs scènes, cinéma, machin, pour les volets, pour les lumières, tout ça. Et c'est vrai que bah, là on a une télécommande avec 5 boutons, mais même moi j'oublie souvent quel bouton fait quoi, c'est un peu galère. Donc c'est vrai qu'un écran pour ça...
C'est ce que j'ai à la maison où j'ai un écran 7 pouces tactile qui est fait pour le Raspberry Pi, et où ça projette l'interface d'Home Assistant, et c'est tout bête, hein, mais que t'es quelque chose qui... quelque part soit pas beaucoup plus compliqué à manipuler qu'un interrupteur, mais sur lequel tu peux faire des choses bien plus avancées qu'un interrupteur. Le concept, si tu veux, je le vois, mais quand je répondais absolument pas, c'est plus que HomeKit et Apple, pour moi comme pour Nicolas, c'est dépassé, quoi.
Ok. Oui. Non, c'est plus le concept. Enfin, moi, ce qui m'interroge, c'est le fait de faire sur un écran dédié ce que tu peux déjà faire avec ton iPhone ou ton iPad ou ton Mac.
Grande conversation qu'on a eue au bureau, et donc comme on a un micro entre nous, on va la refaire, mais où je pense vraiment que le form factor, comme ils disent, mais le fait que ce soit un truc qui ait une position clairement identifiée dans la maison, que ce soit pas un appareil personnel, mais un appareil collectif, je pense que ça change des choses. Nicolas pourrait te parler de comment il a bricolé son Home Assistant pour que son partenaire puisse l'utiliser sans problème, comment moi j'ai bricolé mon Home Assistant pour que ma femme puisse l'utiliser sans que je dois faire le tech support tous les jours. Là-dessus, Apple a clairement un coup à jouer. La position centrale et accessible de l'écran, elle compte. C'est pas juste un iPhone ou un iPad.
Ok. Et les Alexa, ça marche ?
Les gens qui en ont, y compris autour de nous, s'en servent.
Ouais.
Donc, mais même un écran devant lequel tu passes, c'est un widget photo et la météo, c'est déjà pas mal. Hein. Que ton iPad, finalement, il est dans un tiroir. Quand il sert pas, il sert pas. Là, si t'as un truc qui est un iPad simplifié, mais que même quand il est en veille, il fait des trucs, pourquoi pas.
Ce qui m'étonne, moi, c'est qu'il part directement sur un écran de 7 pouces, du coup, ce qui est assez petit.
Le format est étrange, ouais.
Je veux jouer un truc beaucoup plus grand, moi. Surtout que tu vois qu'Amazon a lancé un truc de 21 pouces, je crois, il y a pas longtemps, donc à côté 7 pouces, ça fait vraiment...
Et c'est peut-être ça, les rumeurs du téléviseur Apple, hein. C'est peut-être qu'ils veulent faire une gamme.
Oui, voilà.
Parce que 21 pouces, faut trouver de la place quand même. 7 pouces, ouais. Tu peux dire au-dessus justement de l'interrupteur à l'entrée de la pièce, ça peut le faire encore. Mais...
Oui, et puis toi, enfin, ce que tu veux installer chez toi, c'est même encore plus petit que ça. Ouais. Les boîtiers, ces écrans carrés qui font 3 ou 4 pouces.
Mais ça peut suffire en fait. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup.
Oui, c'est vrai.
Et puis, enfin, si tu pars de l'idée que c'est un tout petit écran qu'on met sur un HomePod mini, finalement, imagine, hein, d'ailleurs, ceux qui nous écoutaient, si vous avez un iPod mini, vous mettez votre iPhone dessus, vous avez une bonne idée du format de ce futur appareil. Hein. Et ça marche. Enfin, ouais. Je trouve ça pas bête. C'est juste pas le bon écosystème pour moi, parce que oui, je suis plus dans l'écosystème HomeKit, mais je trouve ça pas bête.
Le début d'année devrait aussi être marqué par la sortie du MacBook Air M4. Pas de surprise, ça serait plus ou moins le même que l'on connaît, mais avec une puce de dernière génération. Nicolas, est-ce que tu serais client, toi, d'un MacBook Air M4?
Alors, si mon patron l'achète, je l'accepte volontiers.
Deux, s'il vous plaît.
Bon, j'ai encore un MacBook Pro M1 en ordinateur portable qui fonctionne toujours très bien.
Donc... Ça va.
Ah, mais t'as une touch bar en plus.
Et oui, ça c'est la classe. Mais oui, le MacBook Air M4, alors c'est pas une surprise du tout, puisque macOS 15.2, bon, des gens s'en doutaient, mais en plus macOS 15.2 a vendu la mèche sur le fait que ça allait arriver bientôt, donc ouais. Voilà, on sait qu'il va y en avoir un. On imagine que ça va être comme le MacBook Air M2 ou M3, donc le même design, mais avec la puce M4, ce qui n'est pas mal, parce que ce design quand même est très bien. Ouais. C'est vraiment une machine, bon, je ne l'ai jamais utilisée de manière elle a l'air très bien conçue, la connectique est assez généreuse. À ce prix-là, il n'y a pas vraiment de critique à faire. C'est vrai que le plus gros défaut, on pourrait dire, c'est l'écran, qui est un cran en dessous, clairement, de celui des MacBook Pro. Il est moins lumineux, la technologie est plus simple, il n'y a pas de promotion, etc. Enfin, après, c'est pas le même prix non plus, quoi. Voilà, donc,
ouais.
À part le changement de puce, on imagine que ça va être une mise à jour très mineure. On sait qu'ils auront 16Go de RAM. Là encore, on peut remercier Apple Intelligence. Et puis, de toute façon, Apple a déjà changé rétroactivement dans les M3 et M2 qui vendaient encore. C'est quand même assez fou, ça, quand on y pense. Donc voilà, 16Go de RAM, ça sera la base. On imagine qu'il y aura toujours 256Go de stockage de base. Ça, c'est une moins bonne nouvelle, même si, à la limite, sur le Mac portable moins cher de la gamme, on peut éventuellement l'accepter. Le problème, je dirais, c'est plutôt le prix des options, qui est vraiment scandaleux. Mais bon, ça, ouais. C'est... Voilà, c'est Apple. À part ça, peut-être que la caméra bougera, puisque sur les MacBook Pro M4, il y a une nouvelle caméra avec le cadre centré, avec ce nouveau mode, la desk mode, pour afficher le bureau. Donc on aura peut-être ça, c'est pas mal. Mais voilà, après, la puce M4, on la connaît bien maintenant, elle est excellente, donc il n'y a pas de raison de demander plus, en fait. Hein, ça sera une mise à jour assez... Il y a un speed bump, comme on disait à une époque, mais tout à fait satisfaisant.
Mis à part ça, on s'attend à voir débarquer des produits attendus. Les rumeurs voudraient que 2025 marque l'arrivée des AirPods Pro 3, sachant que les précédents datent de 2022. Anthony, qu'est-ce que tu aimerais voir, toi, sur des AirPods Pro 3 ?
Des embouts qui tiennent dans mes oreilles.
Pas possible, ça.
Non, plus sérieusement, je suis content de voir qu'Apple s'est rangé à mon idée d'ordinateur, les ordinateurs audio. Je suis très déçu qu'ils aient pas repris le terme, d'ailleurs. C'était pas très sérieux, finalement. Mon idée, c'était de dire ces trucs ne sont pas juste des écouteurs, ce sont aussi des ordinateurs, et c'est des prothèses. Hein. Ça permet d'augmenter ta réalité. J'insiste, mais les AirPods, c'est le premier device de réalité augmentée qu'on a dans la poche. Penser à Siri, penser aux notifications beeping, enfin on augmente la réalité, et d'augmenter tes capacités physiologiques, toutes les fonctionnalités d'amplification sonore. C'est bête, ces petits écouteurs, on n'y pense pas forcément, mais c'est peut-être le truc le plus perfectionné de toute la gamme d'Apple. Et quelque part, avec les AirPods, Apple est entre son marché historique des accessoires musicaux, enfin elle sait faire des écouteurs, quoi, et son ambition, l'ambition de Tim Cook, d'une révolution dans le domaine de la santé, enfin on est là, quoi. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les rumeurs ne parlent quasiment plus de son, par contre elles parlent de soins. Moi qui avais suivi beaucoup les brevets pendant un temps, Apple a déposé tout un tas de brevets sur la mesure de température, sur la mesure de la conductivité dermique, qui est un bon indicateur du stress, sur la mesure de la fréquence cardiaque, tout ça directement depuis l'oreille. Ce serait assez étonnant que ça ne s'applique jamais, ce serait quand même bien. Et puis les AirPods, quelque part, ils sont dans une position assez idéale, je trouve, pour compléter l'Apple Watch.
Ouais.
Hein, notamment quand tu pars courir ou quand tu pars faire du sport, t'as ton Apple Watch et tes AirPods. Donc les deux se répondent bien. Et ça permettrait de donner une vision holistique de ton état de forme. T'as un device qui a beaucoup de batterie, enfin plus de batterie, on va dire, qui est à ton poignet, puis t'as quelque chose qui est au niveau de tes oreilles, ça se complète pas mal. Mais enfin, je le dis et je le répète, les AirPods, c'est le talon d'Achille de la démarche environnementale d'Apple, qui commence à sérieusement sentir la lessive verte. Si Fairphone est capable de concevoir des écouteurs réparables, si Samsung est capable de concevoir des écouteurs réparables, si Bang & Olufsen, ces gens qui sont quand même pas... est capable de concevoir des écouteurs réparables. Il y a aucune raison qu'Apple continue concevoir des déchets absolument irréparables. Ouais. Donc en attendant ça, et les embouts qui tiennent dans mes oreilles, je suis quand même repassé aux écouteurs filaires.
Dans les surprises à venir, il y a tout de même ce mystérieux iPhone Air. Nicolas, il semblerait qu'Apple s'apprête à chambouler sa gamme d'iPhone pour la première fois depuis longtemps.
Oui, toutes les rumeurs semblent s'aligner sur l'arrivée d'un nouvel iPhone, un tout nouvel iPhone, qui serait beaucoup plus fin, et potentiellement encore plus fin que l'iPhone 6, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Alors on espère, en passant, qu'ils ont appris depuis à faire fin sans plier. Je ne sais pas si les gens se rappellent, mais le 6 et surtout le 6 Plus, ils étaient c'est des iPhones pliables avant l'heure. Par contre, on ne les pliait qu'une seule fois. Hein. C'était un peu
c'est ça. Mais c'est la différence entre pliant et pliable.
Exactement. Donc là, on ne parle pas encore de pliant, mais d'un iPhone fin. Donc ça serait un appareil extrêmement fin. On ne sait pas s'il s'appellerait iPhone 17 Air ou iPhone 17 Slim ou encore toute autre chose. Mais voilà, c'est l'idée principale d'Apple, c'est de l'affiner. Moi, ça m'a évoqué en fait l'iPod Touch, parce que c'est vrai qu'au tout début de l'iPhone, il y avait l'iPod Touch en face qui était hyper fin. Et c'est vrai que c'était mon premier appareil avant d'avoir un iPhone. Et je me rappelle quand je suis passé à l'iPhone, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est très épais. Il y avait vraiment un monde de différence. Et du coup, je me dis, bah, c'est logique dans la gamme s'il y a ça, s'il y a quelque chose d'équivalent à l'iPod Touch, mais avec une puce 4G, 5G et voilà, tout ce qu'il y a dans un téléphone. Ça pourrait sans doute intéresser pas mal de monde. Alors, on ne sait pas comment ils vont faire. On ne sait pas s'ils vont le faire, d'ailleurs, s'ils vont arriver à ce niveau de finesse. D'après les rumeurs, il y a quand même pas mal de compromis à prévoir hein, pour affiner à ce point-là. Parce que les iPhones aujourd'hui sont épais, mais il y a quand même des raisons pour ça. Dans les compromis un peu pas bien gênants, il y aurait plus de tiroir SIM. Donc, tout passerait par une SIM. Bon, ça, à l'usage, on s'en fiche un peu. Par contre, côté appareil photo, par exemple, il faudrait faire des compromis. Il n'y aurait pas de téléobjectif, il n'y aurait sans doute qu'un seul appareil photo et peut-être inférieur même, bah, par exemple, à celui de l'iPhone SE là, qu'on évoquait plus tôt. Ouais. Clairement, là, la physique joue contre Apple. Si on veut affiner, bah, forcément, l'appareil photo va être moins bon, quoi. Il n'y a pas le choix. Autre compromis évoqué par les rumeurs, ça serait l'absence de double haut-parleur. Et j'imagine que le seul haut-parleur qui resterait, c'est aussi nettement moins bon. En gros, on s'oriente plutôt vers des caractéristiques de base. On serait plutôt un concurrent d'un iPhone 17 que d'un iPhone 17 Pro, en tout cas sur la fiche technique. Ils n'en parlent pas, mais on peut imaginer aussi que la batterie serait du coup beaucoup plus petite, que l'autonomie en prendrait un coup. Après, bah, c'est des compromis, quoi, mais en échange, on aurait quelque chose d'hyper fin. Et bah, la question qui reste un peu, parce que là, une fois qu'on a dit tout ça, c'est un peu comment ils se positionnent dans la gamme. Parce qu'en parallèle, on évoque aussi la fin des iPhone Plus cette année, donc les grands iPhones de base. Du coup, on se disait, bon, bah, cet iPhone Air, il va prendre la place. Sauf que pas vraiment, parce que son écran serait pas forcément aussi grand. Et puis les iPhone Plus, ils ont une excellente autonomie, par exemple. Ils ont un bon appareil photo. Donc, on dirait plutôt que c'est une proposition vraiment différente qui bah, intéresserait peut-être des gens qui veulent un iPhone aussi discret que possible, notamment dans la poche, et qui s'en fichent des dernières et meilleures technologies. Typiquement, ceux qui trouvent... On voit souvent des lecteurs qui disent « Oh, moi, l'appareil photo, je m'en fiche, j'en ai marre qu'Apple insiste là-dessus. » Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur un iPhone, quand on regarde la place occupée par les appareils photo, le bloc photo à l'arrière, c'est énorme. Et du coup, on se dit, bah, peut-être pour cela, ça serait voilà, un produit intéressant. Après, il faudra vérifier le prix de vente, évidemment, parce que si c'est un iPhone qui est aussi simple qu'un iPhone 17 au niveau technique, voire inférieur sur certains points, mais qu'il est vendu le prix de... Bah, un peu comme l'iPhone 10 à l'époque en mode futur de l'iPhone, si Apple refait le coup en disant bah, il est encore plus cher parce que c'est le futur mais que la technologie ne suit pas, bon, on ne sait pas ça, hein, c'est un peu le mystère.
Je m'interroge sur le bruit de couloir, on va dire, de l'abandon du Titan pour la gamme Pro qui du coup passerait, alors aujourd'hui c'est en fait un châssis en aluminium avec un bandeau de Titan qui est soudé autour, donc là on repasserait complètement de l'aluminium. Je me demande si aussi ils n'ont pas un coup à jouer sur les matériaux. Dire voilà, à l'intérieur c'est un iPhone moins perfectionné, mais à l'extérieur c'est l'iPhone le plus perfectionné qu'on ait jamais fait. C'est vraiment un produit statutaire, qu'un produit très classe.
C'est possible.
Et pour moi, enfin, je mets ça dans la même gamme de produits que l'Apple Watch Ultra, où tu vois l'Apple Watch Ultra au poignet de gens qui vont jamais aller courir un ultra marathon.
Parce que l'ultra est plus gros, c'est plus autonomie et plus.
Oui, mais ça. Si tu veux dans l'inverse, mais dans le même ordre d'idée, quoi. C'est du cosplay, quoi. C'est tu veux la montre de James Bond et le téléphone de James Bond, quoi. Je sais pas. Moi, je le vois quand je me dis que ça, il y a peut-être un truc à faire là-dessus. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu vague tout ça pour le moment.
En tout cas, les rumeurs en parlent comme vraiment un produit un peu en, charnière entre deux époques, puisqu'on attend des smartphones pliants, mais pas pour 2025, des smartphones Apple. Hein. Apparemment, d'après ce qu'il dit, c'est que le constructeur veut encore améliorer la fiabilité, la qualité des dalles OLED qu'on peut plier, en particulier la charnière, ce qui n'est pas idiot, parce qu'on voit bien sur, chez la concurrent que c'est des produits qui ne sont pas très solides, hein, tous.
Oui.
Ça reste un marché très niche encore aujourd'hui. Donc voilà, ça devrait venir, mais plutôt 2026, on parle d'un concurrent au Z Flip de Samsung, donc un téléphone à clapet, qui une fois ouvert ressemblerait à un iPhone Pro Max. C'est ça, ce que disent les rumeurs. Mais en attendant, du coup, il y aurait cet iPhone ultra fin. Bon, après, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on peut se dire qu'un iPhone ultra fin, c'est quand même pas mal pour un iPhone pliant, parce qu'une fois qu'on le plie, il serait plus épais. Mais apparemment, c'est vraiment deux produits différents. Mmh. On verra. Les rumeurs sont peut-être un peu... Enfin, on ne sait pas exactement quoi. C'est flou encore.
Ouais. Et un iPhone pliant, vous seriez client ?
Bof. Je trouve pas l'iPhone actuel trop gros pour moi, pour ma part.
Un truc à la Z Flip, moi je serais curieux
d'essayer. Oui, moi aussi. Je...
Bah, en fait, oui, mais tu dois faire un geste à chaque fois pour l'ouvrir. Moi, ça me... Enfin bon, moi non. Je pense pas que ça me...
Bah, si t'as mon usage du téléphone plutôt que le tien, enfin moi je suis client, parce que sur mon écran d'accueil il y a littéralement zéro icône, donc moi ça m'irait très bien quoi. Et en fait je comprends pas le succès des, je sais pas comment appeler ces trucs, mais où t'ouvres et t'as deux smartphones.
Les Fold.
Ouais, les Fold. Moi je Flip, je comprends bien et je comprendrais bien la taille du dessus qui serait genre un iPad Pro 17 pouces que tu plies en deux et ça fait, enfin vraiment c'est... quand tu l'ouvres ça t'as comme si t'avais un magazine. Moi je veux ça, je veux et l'iPad qui se plie en deux et que quand il se déplie, c'est la taille d'un magazine, et un Z Flip.
Ouais.
Donc ça, c'est 2027, normalement, d'après les rumeurs.
Oui, non, puis je suis prêt, on va dire, allez, 2031 pour réaliser mes rêves. Mais le Fold, en même temps, j'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de rumeurs là-dessus côté Apple, mais je comprends pas le succès même critique ou le succès d'estime de ces appareils qui ont très exactement zéro usage.
Anthony, l'année 2025 devrait être l'occasion de découvrir le premier modem 5G d'Apple. J'ai jeté un œil dans nos archives et ce projet remonte au moins à 2019, quand Apple avait racheté la majeure partie de l'activité puce réseau d'Intel. D'après les rumeurs, ce premier modem ne devrait pas trop tarder à être disponible. Est-ce que cette année, ça sera enfin la bonne ?
2025 sera l'année de Linux sur le bureau. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, je sais pas si c'est... Enfin, t'as eu du courage de travailler chercher dans les archives. Je me souviens de trucs encore plus vieux, quoi. Enfin, clairement, ils ont envie de prendre le contrôle du cœur de l'iPhone. Parce que c'est quand même... Enfin, quand on y pense, c'est quand même une anomalie que Qualcomm fasse tourner son système d'exploitation à l'intérieur de l'iPhone.
Ouais.
Parce que, littéralement, le premier truc qui boot, c'est pas... Enfin... Parmi les premiers trucs qui bootent, c'est quand même un système d'exploitation fait par Qualcomm sur lequel Apple a pas la main.
Ouais.
Ils avaient déposé des brevets sur les technologies fondamentales de la 3G. On se souvient au début de la 4G, ils s'étaient écharpés avec tous les équipementiers. Donc quand Intel avait vendu, enfin Intel Mobile Communication avait mis en vente ses activités smartphone, ils étaient un peu sautés sur le, ils avaient un peu sauté sur l'occasion. En plus, c'est positionné en Allemagne, donc ça permettait de parler avec Siemens, avec Nokia, avec SNS et tout ça. Enfin, c'était assez intéressant. Il faut aussi se souvenir qu'on approche doucement de la fin de l'accord de licence entre Qualcomm et Apple.
Ouais.
Ils avaient signé en 2019 pour 6 ans. 2019 plus 6, ça fait 2025. Donc, il va falloir y aller. Ouais. A priori, c'est là qu'on voit que Nicolas c'est un grand professionnel parce qu'il en a pas parlé pour pas me marcher sur les pieds. A priori, en commençant par l'iPhone SE et l'iPhone R, et quelque part le placement marketing de ces deux appareils, le fait qu'on est à l'entrée de gamme pour le SE et on est sur un truc statutaire pour l'iPhone R. Ça pourrait faire passer la pilule de l'absence de prise en charge des ondes millimétriques, qui est plus ou moins annoncée. Alors les ondes millimétriques, c'est grosso modo qu'aux États-Unis si on est au pied de l'antenne, donc en plus on s'en fout quoi. Pour 2025, l'iPad paraît un assez bon candidat, de la même manière d'ailleurs que l'Apple TV pourrait être le premier appareil dans lequel Apple mettrait sa première puce Wi-Fi. On a ces appareils qui sont un peu sur le côté dans la gamme, qui sont moins stratégique, moins crucial, on va dire, que l'iPhone. Enfin, on peut planter le modem de l'iPad, on peut planter la puce Wi-Fi de l'Apple TV. C'est grave, mais c'est moins grave que si on plante le modem de l'iPhone. On va pas se refaire un antenna gate, quoi.
Ouais.
Pour le reste de la gamme d'iPhone, va probablement falloir attendre 2026, voire 2027. On a quand même déjà des rumeurs sur trois générations de puces. Ça lui laisse le temps quelque part de progresser parce qu'on a une bonne liste des absences plutôt que des présences avec ces puces. Donc, il va falloir prendre en charge les ondes millimétriques, l'agrégation de porteuses, c'est-à-dire la connexion à plusieurs porteuses 5G. A priori, Apple va lancer une puce qui fait du 2x2 alors que Qualcomm travaille sur du 5 voire du 6 porteuses. Donc on peut atteindre 6 gigabits par seconde. Pareil, au pied de l'antenne quand on est tout seul. Hein. Donc encore une fois, en pratique, on s'en fout. De prise en charge des connexions satellitaires, et ça pour le coup pour Apple c'est important, ils ont des billes dans les satellites, donc on peut pas se permettre d'avoir un modem qui fait pas ça dans l'iPhone. Et en attendant, sur ces 2, 3, 4 ans, l'avantage c'est que elle peut parfaitement communiquer avec le système sur puce, c'est pas comme le truc de Qualcomm qui vit dans son monde. Là, on aura du Apple qui parle à du Apple, voire intégrer directement le modem dans le SoC. Qualcomm et MediaTek font ça. Ça permettrait de gérer très finement les émissions électromagnétiques. On se souvient, l'iPhone 12 et le DAS, c'est un sujet. Et la consommation énergétique, et ça pour Apple, et je pense notamment ce que disait tout à l'heure Nicolas sur l'iPhone Air et une batterie plus fine, ou plus tard les appareils pliants, pliables, ça va être important. Et donc quelque part, si l'an prochain, la puce, elle est un peu moins rapide en théorique, en théorie, parce qu'encore une fois, au pied de l'antenne tout seul, mais qu'en pratique, tu gagnes quelques heures d'autonomie, je pense que c'est un super bon compromis. Enfin, moi je signe. Je prends le modem d'Apple moins rapide mais plus économe. Aucun problème quoi.
Nicolas, on s'attend sinon à voir arriver un paquet de produits qui ne vont pas évoluer énormément en 2025. On serait par exemple pas surpris de voir un Mac Studio M4 Max ou un iPhone 17. Mark Gurman a déjà annoncé des iPad Air donc plutôt pour le début d'année. Est-ce qu'il y a un produit que tu attends plus qu'un autre dans le lot?
Je suis assez curieux de voir ce nouveau Mac Studio, même si le mien vraiment est toujours suffisant pour répondre à tous mes besoins, y compris de joueurs, je tiens à le rappeler. Mais c'est vrai que la puce M4, on l'avait dit plus tôt, c'est vraiment ils ont vraiment fait un super boulot sur cette puce, là, il y a un gain assez important. Et je me dis, alors on ne sait pas s'il y aura une puce M4 Ultra, mais si c'est le cas, on peut l'espérer, je suis vraiment curieux de voir ce que ça donne, et aussi de savoir comment ils l'ont fait. Est-ce que c'est deux puces M4 Max collées comme sur les M1 et M2 Ultra, ou est-ce que c'est une puce entièrement dédiée? C'est vrai que sinon, on ne s'attend pas à grand-chose, hein, comme tu dis, c'est une mise à jour mineure, Mac Studio. Il n'y a pas non plus besoin de changer grand-chose, hein, c'est un excellent petit Mac surpuissant.
Ils vont mettre le bouton d'allumage en dessous.
Qu'ils fassent. De toute façon, moi, je n'éteins jamais le Mac, je m'en fiche. Après, dans ce segment-là, c'est le Mac Pro, alors tu ne l'évoques pas, mais en théorie, il y a un nouveau Mac Pro qui devrait arriver. Alors ça, c'est intéressant aussi, plus parce qu'on se demande ce qu'ils vont faire de cette machine.
Le Mac Studio en plus gros.
Voilà, donc ça c'était le Mac Pro de M2, enfin c'est toujours, il est toujours là. En gros, c'est un Mac Studio avec beaucoup d'espace vide à l'intérieur, donc c'est très bien pour ceux qui ont besoin des cartes d'expansion. Mais elle est bloquée, enfin cette machine était bloquée à la M2 Ultra, la même que le Mac Studio.
Oh, c'est une impasse totale cette machine. Ouais.
Et voilà, alors les rumeurs ne disent rien de très concret. au contraire, même, on a plutôt l'impression, on a encore eu récemment des informations qui disaient que la puce extrême, donc pour rappeler, ça c'était les rumeurs du tout début de l'Apple Silicon, mais on parlait donc de deux puces collées pour faire ce qui est devenu les puces ultra, et on parlait après de quatre puces assemblées pour faire une puce extrême. Donc cette puce-là qu'on n'a jamais vue, manifestement, elle ne va pas venir plus cette année. Du coup, j'ai bien l'impression que si le Mac Pro a bien droit à une mise à jour, ce sera exactement comme il y a deux ans, un an, enfin la gamme M2 en tout cas, donc on aura un Mac Pro M2 Ultra, c'est un Mac Studio avec plein de vides. Pour ceux qui ont besoin des cartes d'expansion, il y en a quand même, mais voilà, ça serait assez décevant. Sinon, côté iPhone, donc on a parlé beaucoup de l'iPhone 17R, il y aurait aussi des iPhone 17 et 17 Pro. Il y a quelques rumeurs, surtout pour les pros, sur le design cette année. On parle d'un gros changement au dos avec, au lieu du carré d'appareil photo, là, du bloc qu'on a depuis quelques années, ce serait une barre.
Ah oui, à la pixel un peu, là, ouais.
Exactement, c'est ça. C'est, en gros, ça ressemble, pour si vous voyez ce que c'est les pixels de Google, ça serait pareil, mais version Apple, donc avec une pomme.
Avec les rumeurs qui ne sont pas d'accord sur le placement des appareils.
Et puis je trouve ça assez surprenant, on va voir, mais je ne comprends pas bien pourquoi ils font ça, alors que vraiment, clairement, c'est pas Google est le seul à faire ça, parce qu'il y en a peut-être eu d'autres, mais je veux dire, ils font ça depuis des années, ils ont vraiment adopté ce design-là, alors qu'Apple, au contraire, on voit là dans les séries qu'on peut regarder, etc., tu reconnais tout de suite un iPhone parce que tous les blocs sont dans le coin et organisés d'une manière qui est toujours la même. Et je trouve ça assez bizarre. Bon, puis je vois pas ce que ça apporterait, mais bref, c'est la rumeur.
Pour la stabilité, quand t'as ton téléphone à plat sur la table, ça serait pas mal.
Ça serait pas mal, mais tu paries combien que les objectifs vont dépasser un peu du bloc et que ça sera mieux. Et puis plus le téléobjectif que les autres ou je sais pas quoi.
Bien sûr.
Ils vont se débrouiller. Mais voilà. Et bah Anthony en parlait tout à l'heure, mais effectivement, on parle aussi en termes de design d'un abandon du titane. Ce que je trouve aussi étonnant sur la gamme Pro, mais du coup, ça serait que de l'alu sur les iPhone 17 et 17 Pro. Tout le monde aurait la même chose, quoi. Et bon, donc sinon, sur l'iPad, alors oui, c'est Gurman qui parle d'un nouvel iPad Air, ce qui est aussi assez étonnant, parce que la gamme actuelle, elle n'aurait même pas un an si ça sort début d'année. Ouais. C'est d'autant plus surprenant que les iPad Pro, par contre, eux, ils devraient passer 2025 sans mise à jour. Ce qui est logique pour eux, parce qu'ils ont, reçu une plus M4 au printemps. Et bah, il n'y a pas mieux, de toute manière. Il n'y aura pas mieux avant, sans doute, la fin de l'année, voire début 2026. Donc, il n'y a aucune raison de les mettre à jour. Je ne comprends pas l'iPad Air, ce qu'il viendrait faire là. Surtout qu'il n'y a pas de rumeur qui parle on ne parle pas d'une mise à jour importante. Ce serait plutôt, au contraire, quelque chose de très mineur, avec des composants internes un peu modifiés. Pas de nouveau design, ce qui voudrait dire que l'iPad Air resterait plus épais que l'iPad Pro. Ça n'a pas tellement de sens d'un point de vue non, mais enfin, ça, passons.
Et toujours les mêmes tailles ?
A priori, oui, c'est vraiment... Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire, mais voilà. Il dit qu'il y a un nouvel iPad Air, il a souvent raison, donc on verra. pour compléter la gamme, on peut parler de l'Apple Watch. Il n'y a pas eu de nouvel Ultra, donc on passera à une Ultra 3, sans doute en 2025.
Ouais.
Et puis on parle sinon, de manière générale pour la gamme, d'ajout d'un tensiomètre, et plus intéressant, l'arrivée d'une connexion satellite d'Apple. Et ça, pour le coup, ça serait une première dans l'univers des mondes connectés. Enfin, pas une première tout court. Il y a des mondes qui se connectent aux satellites, mais de la manière dont Apple le fait, où tu peux appeler en urgence, appeler les urgences si tu es sans réseau, ça serait vraiment une première. Et c'est intéressant parce qu'en plus, ils poussent de plus en plus le côté de la sécurité, etc., avec leurs montres. Donc, voilà, ça serait assez logique. Ouais. Et on n'oublie pas, on l'a évoqué vite fait, mais il y aurait une nouvelle Apple TV et même un nouveau HomePod mini en début d'année. Le HomePod mini, l'actuel, il date de 2020, c'est la première génération et la seule qu'il y a eu. Bon, après, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, ça va sans doute être une mise à jour assez mineure. Comme Anthony le disait, il y aura sans doute la puce Wi-Fi et Bluetooth d'Apple, maison. Pour l'utilisateur, ça ne devrait rien changer, et j'imagine que, surtout côté enceinte, ben, ça sera la même chose, il y aura peut-être des nouveaux coloris, mais voilà, il n'y a pas de raison vraiment de changer l'enceinte. Et l'Apple TV, c'est un peu pareil, alors peut-être qu'ils mettront une puce bien plus puissante parce que Apple Intelligence, c'est une possibilité étant donné que...
Félix y va un M4.
Sans aller jusque-là, mais oui, j'imagine la 18, par exemple, pourrait être un bon candidat parce que ça permettrait d'ajouter Apple Intelligence. Alors, ça serait dans tvOS 19 l'année prochaine, mais voilà, ça pourrait être une idée. Je ne sais pas ce qu'ils pourront faire, mais bon, peut-être pour le Siri, ne serait-ce que ça, le nouveau Siri avec les LLM. Bon, voilà, ça pourrait être le cas. Le HomePod mini, vu son prix, on est à 109€ en France. Ce que j'ai acheté cher, enfin bon. Pour Apple, c'est pas cher, donc je pense que ça va être juste une puce. Là, aujourd'hui, c'est la puce S5 de mémoire de la Apple Watch série 5, donc ça remonte. C'est pareil, s'ils mettaient une puce beaucoup plus récente, voilà, il tiendrait encore 4-5 ans sans trop de problèmes.
Anthony, Apple va dans un premier temps finir de livrer les nouveautés d'Apple Intelligence d'iOS 18 et devra en présenter de nouvelles lors de la prochaine WWDC. Est-ce que c'est une réussite pour le moment, le lancement d'Apple Intelligence ? Qu'est-ce qui nous attend dans les prochains mois côté IA ?
Il dit ça en souriant parce qu'il est en train d'imaginer comment je vais répondre.
Toi qui utilises Apple Intelligence tous les jours.
Tous les jours. je crois pas qu'on puisse dire que c'est une réussite, surprise. Non, mais ne serait-ce parce qu'il est cantonné à l'anglais dans une demi-douzaine de pays. Mais enfin, je crois pas qu'on puisse non plus déjà parler d'échec.
Ah oui, non.
Et là, tu vois, t'es obligé d'arrêter de sourire.
T'es positif.
Les antidépresseurs, ça marche. ou disons que si c'est un échec, et tu vas voir qu'on va tout de suite revenir dans le négatif, c'est un échec comme tous les autres LLM qui consomment une énergie folle pour une utilité franchement contestable. Moi, je suis quand même... Apple Intelligence s'est pris les pieds dans le tapis à la première occasion. Ils ont halluciné le suicide du suspect du meurtre du CEO d'United Healthcare. Ils ont halluciné l'arrestation de Benjamin Netanyahu, qui n'a pas été arrêté. C'est pas juste extraordinairement gênant, c'est activement dangereux quand on parle de l'arrestation d'un président démocratiquement élu ou d'un suspect dans un meurtre.
Ouais.
C'est pas juste il a inventé. C'est dangereux. Mais chouette, ça va arriver en avril en Europe. et en français. C'est cool, on va aussi pouvoir halluciner les trucs chez nous. Super. En plus, on va avoir toutes les fonctions d'un coup, alors que les Américains les ont découvert au compte-goutte. Oui. C'est l'avantage d'être en retard. Du coup, on va avoir le résumé qui peut halluciner les notifications. On va avoir des outils qui peuvent halluciner du texte. Tu vois comment la positivité s'est effacée. La gomme qui peut halluciner des morceaux de photos. Et puis la nouvelle interface de Siri qui n'hallucine rien du tout puisque Siri ne sait toujours rien faire.
Image Playground qui hallucine des images moches.
Bon, cela dit, on va aussi récupérer au passage, c'est pas Apple Intelligence, mais la recopie de l'iPhone sur le Mac. Je suis très curieux de voir comment ça marche. Ça peut être la guerre, mais ça peut être intéressant d'aller choper une application de temps en temps sur l'iPhone.
Juste les notifs de ton iPhone sur l'écran de ton Mac sans devoir tourner la tête pour regarder ton téléphone, c'est cool.
Oui, et puis en fouillant toi dans les bêtas, là, j'ai vu ton papier où tu disais qu'il y avait quand même une option pour pouvoir les désactiver si justement tu voulais pas avoir des notifications en double. On peut espérer que là, pour le coup, Apple Intelligence soit capable de dire ça, c'est la même notification WhatsApp, on va pas la dupliquer. On va espérer, on va être positif Félix.
Ouais. Je voudrais pas casser le moral, mais...
Non. Mars. Je suis quand même curieux de ça, pour le coup, de voir comment ça va marcher. Mais enfin, plus sérieusement, on va aussi avoir avec tout ça la nouvelle interface qui est dans Mail. Pierre, on a parlé pas plus tard que cette semaine sur Hygène. L'intégration de ChatGPT, pourquoi pas. Comme disait Nicolas, Image Playgrounds et puis Genmoji aussi pour générer des emojis moches. Et donc d'ici à ce que ça arrive au mois d'avril, si tout va bien, Apple aura terminé. Je sais pas comment il faut appeler ça, mais je vais dire la première refonte de Siri, on aura Siri qui sera capable de contrôler directement les applications et puis de piocher dans les informations personnelles pour mieux répondre aux questions. Ouais. Donc une espèce de l'architecture actuelle de Siri, mais qui en fait plus, Siri plus Apple Intelligence. Et puis ce qu'on attend, c'est l'inverse, c'est d'avoir Siri qui disparaît, enfin l'architecture actuelle de Siri qui disparaît, et on met un peu comme ChatGPT, qu'on met le LLM d'abord. Et au-dessus de ça, on met l'archi de Siri, les App Intents et tout ça. Et donc, quelque part, quelque chose qui fonctionne un peu comme Gemini quand tu changes Google Assistant par Gemini sur Android. Ça, a priori, il faudra attendre l'automne, mais pas pour l'avoir dans le téléphone, mais plutôt pour entendre Apple en parler. Donc, ce sera plutôt pour 2026. Et là, pareil, enfin, faudra voir où est-ce qu'ils mettent le curseur, parce que bon, Apple nous avait dit on veut faire l'IA qui hallucine pas, et malheureusement, à la première occasion, ça a foiré. Là, faudra voir, parce que si Siri hallucine les numéros de téléphone, on va avoir des problèmes. Et surtout, j'espère qu'Apple va pas oublier le bon vieux machine learning pour autant, parce que c'est bien de sauter sur le truc à la mode qui est les LLM, mais ce serait pas mal d'oublier tout le reste, de pas oublier tout le reste. Moi, ce que je vois, c'est qu'on m'avait promis le nuage navigateur, et puis tout ce que j'ai eu, c'est Genmoji. Moi, j'aimerais qu'on revienne à l'ambition du nuage navigateur, mais voilà, faciliter le tri des fichiers, la navigation dans le Finder, continuer la refonte de photos qui est pas inintéressante, mais elle marche pas. améliorer Spotlight, qui est devenu quasiment inutilisable depuis l'an dernier, l'intégration des résultats web. On en parlait, mais on pourrait imaginer avoir des suggestions de fichiers dans le bureau, des apps dans le doc, enfin j'en sais rien. Il y a moyen de faire des choses très pratico-pratiques avec l'IA qui ne sont pas forcément des LLM. Ouais.
Nicolas, on s'attend à du neuf côté service. Les rumeurs voudraient par exemple qu'Apple développe une nouvelle app dédiée au jeu.
C'est vrai qu'il y a une rumeur à ce sujet. J'ai un peu découverte, je reconnais. Ouais. Je m'en souvenais plus. Mais oui, donc ce serait une application dédiée au jeu qui rassemblerait d'une part la section jeu de l'App Store, celle dédiée à Apple Arcade, et puis toutes les actualités là, dans le flux sur la page principale de l'App Store, toutes celles qui concernent le jeu. Donc voilà, une sorte de boutique, peut-être avec un contenu éditorial en avant. Donc ça serait le premier volet. Et l'autre, ça serait le bon vieux Game Center, qui, n'a pas disparu. Depuis iOS 10, elle est dans les réglages, cette fonction. Avant, elle avait droit à une app dédiée. Et à la belle époque d'iOS, enfin, pré-iOS 7, c'était une très jolie application, d'ailleurs. C'était pas mal du tout. Depuis, je sais pas... Voilà, on utilise des fois le Game Center, parce que les jeux l'ont, mais... Bref, l'idée de cette application, ça serait de mettre en avant tout ça. Je sais pas si beaucoup de monde attendait une application jeu de la part d'Apple, mais enfin voilà, ils essayent toujours, c'est déjà pas mal. On voit bien qu'ils n'y arrivent pas, mais ils essayent. Donc voilà, ça c'est la première rumeur. Côté service, le gros morceau on pourrait dire maintenant c'est quand même Apple TV+, qui semble avoir un peu de mal ces derniers temps. Alors ils mettent le paquet niveau budget, niveau financier, ça se voit, ils financent des séries et des films Il y a des très bonnes productions. Et puis surtout, le catalogue devient vraiment important maintenant. Hein. C'est, au début, on se moquait un peu. Il y avait 3-4 séries, on pouvait tout voir d'un coup et ça allait vite. Maintenant, c'est plus tout le cas. Il y a plein de choses, plein de genres. Pas plein de langues, mais ça commence un peu à venir dans d'autres langues. Mais le public semble pas vraiment au rendez-vous. Et puis, comme tout le monde, Apple commence à refermer la bourse. Donc, ils font des Netflix, on peut dire. Donc, ils annulent des séries après une seule saison, sans leur laisser de chance. Ce qui, je trouve, est dommage, surtout qu'ils... Même si le catalogue est quand même grand, ils n'en ont pas autant que Netflix, hein, typiquement. Par exemple, dernièrement, on a vu Bandy, qui n'est pas une excellente série, mais qui est une bonne série, et je trouve qu'aurait mérité d'avoir une deuxième chance. Et voilà, ils ont décidé de l'arrêter dès la fin de la première saison. Et il y en a de plus en plus comme ça, c'est vrai que voilà, on sent que ça se normalise de ce côté-là. Et alors, pour moi, ça c'est assez personnel, j'ai l'impression que le problème depuis le début de ce service, c'est qu'ils veulent faire du très haut de gamme, mais avec une vision qui me semble un peu dépassée. Ils les sortent leurs épisodes de série à la semaine, comme le grand temps de la télé. Les films, ils voulaient les sortir au cinéma, et puis pas juste les sortir au cinéma, ils voulaient faire des grandes sorties vraiment importantes. Moi, je trouve que ça a un côté un peu, depuis le début, un peu dépassé par rapport à Netflix, par exemple, qui a toujours plutôt assumé son côté service de streaming avant tout. Et à mon avis, ça les dessert un peu. Ça leur coûte très cher. D'ailleurs, on le voit avec les sorties ciné, hein, qu'ils abandonnent petit à petit. Et puis d'ailleurs, cette façon de revenir en arrière, ça ne les aide pas du tout. Au sujet des films, du cinéma, ils ont pas mal de soucis avec ça. Par exemple, ils annulent des sorties un peu ciné à la dernière minute, ce qui les met en difficulté par rapport aux créateurs, parce qu'eux, ils comptent dessus. Enfin bref, ça ne va pas les aider, ça ne va pas aider le service. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne idée, mais voilà, les finances sont plus qu'elles sont, et du coup, comme tout le monde, ils se normalisent un peu, voilà. Et sinon, pour les services, il ne faudrait quand même pas oublier Apple Music Classical, comme Apple semble l'avoir fait. Il y a eu une app pour l'iPad, enfin, cette année. Ouais. Mais ce que je trouve dingue, moi, toujours rien pour le Mac. Ah. C'est d'autant plus fou qu'ils ont quand même, Apple, créé des outils pour passer une application de l'iPad au Mac facilement, en théorie, quelques clics. Donc je ne comprends pas que quelques clics plus un peu de... Enfin, il doit falloir un peu de boulot, mais je veux dire, voilà, c'est pas non plus... on ne demande pas un truc qui revient de zéro, mais non, il n'y a rien. Donc peut-être en 2025, enfin, ils vont se rappeler qu'ils ont le Mac qui existe dans un coin.
On en oublierait presque le Vision Pro qui devrait pourtant...
Pas alors
Non, quand même, qui devrait pourtant avoir droit à une mise à jour en 2025. Anthony, les débuts du produit ont été laborieux, je pense qu'on peut le dire. Est-ce qu'Apple peut encore rattraper le coup avec son casque?
Alors tu vois, autant j'ai un avis tranché sur l'IA... parce que j'ai raison. Autant j'ai du mal à me faire un avis sur la VR parce que je suis pas encore sûr d'avoir raison. Tu vois comment je suis. Et pourtant j'écris sur le sujet depuis 10 ans, quoi, donc je devrais. Comme disait l'autre, je dirais pas que c'est un échec, mais ça a pas marché. Ça se voit d'ailleurs dans les chiffres d'audience de WatchG, hein, où on a parié l'année 2024 sur Vision Pro et on aurait mieux fait de jouer autre chose. Pourtant. Le Vision Pro, moi je trouve que c'est un produit extraordinairement intéressant. C'est le produit le plus intéressant que j'ai touché depuis des années. Et Félix est le premier surpris. Mais vraiment.
Ah, vraiment.
Y a une myriade d'excellentes idées que la concurrence a déjà entièrement pompées. C'est aller encore plus vite que d'habitude. Donc ça prouve d'ailleurs qu'elles sont bonnes.
Hein. Oui.
C'est juste qu'ils ont complètement tapé à côté. Juste. Mais sinon, c'est très bien. Juste que personne n'en veut. Et pendant ce temps, tu le vois, hein, Meta et Sylan Luxottica qui vendent des palettes de lunettes Ray-Ban. Je suis allé passer chez l'opticien, changer mes lunettes. Il y avait des Meta Ray-Ban. J'ai failli repartir avec une. C'est très dangereux. Et eux, d'ailleurs, jouent, hein, j'en parlais tout à l'heure avec les AirPods, hein, mais ils jouent la réalité augmentée par le son. C'est presque un de meilleurs écouteurs que des lunettes de réalité augmentée. C'est intéressant. Donc 2025, clairement, hein, ça va être l'année de ce segment, les lunettes connectées, on va dire. Sur Web Génération, j'ai vu qu'on avait parlé des lunettes Ergo, Air comme l'air qu'on respire. Google, visiblement, semble avoir envie d'y retourner. J'ai envie de voir ça, les Google Glass 4, 3, 2, 15. Je suis certain qu'on trouvera, en juillet, des modèles potables pour... 100 balles sur AliExpress, j'en doute pas. Et d'ailleurs, Meta, hein, on voit qu'ils ne comptent pas en rester là. Quelques journalistes américains avaient été invités sur leur campus pour tester ce qu'ils appellent le projet Orion, et où donc on est sur des lunettes qui reste des lunettes transparentes, hein, pas comme Apple où on a un écran devant les yeux et on simule la transparence avec cet écran de l'enfer qui attrape votre âme et vous la rend jamais. Mais donc ils ont des lunettes, mais là où cette fois-ci on commence à projeter des choses sur la rétine ou sur le verre. Donc on passe dans la réalité mixte. Donc on voit comment Meta enclenche déjà, met un coup de cliquet et enclenche la suite. La question à 100 milliards, c'est vraiment ça. Hein. C'est quoi la meilleure trajectoire pour aller au bout, et le bout, c'est bah, des lunettes transparentes qui augmentent votre vision, votre audition, votre cognition, encore une fois, hein, les assistants virtuels dans votre oreille. Est-ce que c'est celle de Meta ? Donc on part de lunettes très simples qui prennent des photos et qui parlent dans votre oreille, et on les complexifie. Projet Orion, et puis demain, on aura un truc qui fait tout ce que fait le Vision Pro, mais sans un écran devant les yeux. Ou est-ce que c'est celle d'Apple, où on va... il s'appelle Vision Pro, ce truc. Donc s'il y a un Vision Pro, c'est peut-être qu'il y aura un Vision tout court et puis un Vision Air, donc on peut imaginer comme ça décomplexifier le Vision Pro. Ou d'ailleurs, est-ce qu'il faut... peut-être qu'il ne faut pas un seul appareil, peut-être qu'il en faut deux. Peut-être qu'il faut un casque de réalité virtuelle immersif pour la maison, donc le Vision Pro, et puis des lunettes de réalité mixte, transparentes, qui en font beaucoup moins que le projet Orion, quelque part. Et, il ne faudrait pas des choses beaucoup plus compliquées que les lunettes de Meta pour dehors. Ça, c'est vraiment la question à 100 milliards. On n'aura pas la réponse en 2025, mais... je pense qu'on va voir la vitesse de la trajectoire de chacun.
Oui.
Et moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que les rumeurs, quand elles parlent du Vision Pro à puce M5, on parle de la mise en production à l'automne. Mise en production seulement, hein, donc pas commercialisation.
Ouais.
Donc on va potentiellement passer 2 ans sans mise à jour. On ne parle plus du modèle moins haut de gamme ou plus bas de gamme, je ne sais pas dans comment il faut le dire. Et la réflexion d'Apple sur les lunettes transparentes, elle en est à l'état de sondage en interne. Et pour avoir vu les questions, c'est vraiment est-ce que vous avez acheté des lunettes de Meta ? Si vous les avez achetées, qu'est-ce que vous en pensez ? Enfin, on est vraiment au ras des pâquerettes, quoi, là-dessus.
Ouais.
Donc pour un truc qui est censé avoir été commencé il y a 5 ou 6 ans, on est vraiment en degré zéro de la réflexion, hein, dans ce sujet-là. Mais il y a quand même pas mal de questions sur ce Vision Pro M5. Est-ce qu'il sera moins cher ? Comment est-ce qu'Apple va intégrer Apple Intelligence ? Parce que c'est peut-être le secteur, puisqu'il n'y a pas d'interface tangible sur lequel les assistants dopés à OLLM sont les plus intéressants. L'interface vocale, la compréhension dans le langage naturel, des choses comme ça. Est-ce qu'elle va s'appuyer sur les usages productifs ? On l'a vu avec Gen OS 2, moi je trouve que c'est intéressant ce qu'ils ont fait avec le moniteur panoramique. Ah, où c'est un excellent... Alors, je sais que toi, t'es pas d'accord,
non,
Félix.
Mais quand tu vois que les apps de iWork sont même pas encore en version Vision OS
non, mais
native...
Ça, c'est terrible. Terrible. La Logitech du Vision Pro est terrible.
Ah,
mais
non.
Les contenus qu'ils diffusent toujours compte-gouttes, c'est
terrible.
Fou.
Non, mais j'ai pas dit que c'était un bon produit, pareil.
Mais ça, c'est fou, parce qu'Apple avait tout à fait la main, et ils auraient pu faire bien mieux avec leurs propres apps, leurs propres contenus.
Et puis, c'est pas comme s'ils avaient 130 milliards de dollars à la banque, quoi. Parce que tu disais qu'ils ont serré la bourse sur Apple TV+, mais enfin, ils ont quand même un peu d'argent à dépenser, quoi. Mais je trouve que c'est presque un meilleur écran pour le Mac que le Studio Display ou le Pro Display XDR. Et finalement, 4000 balles, quand tu regardes le Pro Display XDR à 6000 balles, c'est pas forcément si cher, quoi. Et le moniteur panoramique dans Vision OS 2, c'est vraiment intéressant. Donc, t'as des usages comme ça productifs. T'as aussi des usages vidéoludiques. Toi, ça te parle forcément plus. Et pareil. Vous le voyez pas, les gens qui nous écoutons, mais il hausse des sourcils, le gamer, là. On a des rumeurs sur Sony qui travaille sur des manettes.
Ouais.
Ils ont quand même mis un peu de fric dans le jeu. Encore une fois, Apple et le jeu vidéo, c'est compliqué, mais pourquoi pas. Et puis moi, la question que je me pose aussi, c'est, on avait vu, hein, sur l'Apple Watch, où en l'espace de 3 ans, ils avaient complètement refait l'interface, ils avaient abandonné les concepts un peu à la con, comme... on appuie sur le bouton latéral de l'Apple Watch qui était dédié avec une fleur dont les pétales étaient vos contacts. Ça a très très vite disparu quand même. Hein.
Ouais. On pouvait envoyer son cœur, c'était mignon.
Ah oui, et puis on pouvait envoyer son cœur avec 2 doigts et maintenant c'est planqué au fond des messages. Est-ce qu'ils sont capables de faire pareil avec Vision OS, d'itérer très rapidement parce que clairement ils ont tapé à côté. Donc ça voilà, c'est des choses qu'on peut peut-être commencer à voir l'an prochain, notamment avec Vision OS 3 ou dès la WWDC avec la preview. Et je pense que ça c'est vraiment passionnant parce qu'on va voir comment Apple se positionne face à un monde qui a déjà changé alors qu'elle n'y était même pas, quoi. Le seul truc, c'est que j'ai peur que tout le monde s'en foute. Mais genre tout le monde. Et c'est le problème, quoi, quelque part. Tant que ce produit sera inaccessible, tant que ça restera un truc très virtuel, même pour nos lecteurs, quoi. on n'avancera pas. Nos lecteurs s'y intéressent pas parce qu'ils peuvent pas, ils peuvent pas l'acheter.
Oui, ouais.
Donc c'est difficile d'être passionné pour un truc qui te concerne pas, quoi. Ouais. Et moi, je suis le truc qui me chagrine un peu. C'est une boîte quand même qui sait faire du marketing, qui sait vendre un produit. Et le problème de ce produit, c'est que pour l'essayer, il faut l'avoir sur la tête. Enfin, pour en être convaincu, il faut l'avoir sur la tête. Et donc quelque part, pour en être convaincu, il faut l'avoir acheté. Et ça, c'est un casse-tête, quoi. Et ouais. Je sais que c'est un truc qu'on avait aussi discuté avec Nicolas pour la voiture. Je pense que c'est le casse-tête qui a tué la voiture, le projet de voiture. C'est que ce truc est invendable. Et je pense que le Vision Pro, c'est pareil. C'est un produit qui est sans doute très bien, ou qui a le potentiel pour sans doute devenir très bien, mais qui est absolument invendable.
Ouais.
Alors que les lunettes de Meta, même quand elles n'ont plus de batterie, c'est des lunettes de soleil.
Mm.
C'est con, mais ça marche. Ouais.
Et puis, c'est pas le même prix.
Et puis c'est pas le même
plus. Oui.
Eh bien merci à vous deux pour ce point sur les rumeurs. Nous allons évidemment suivre tout cela de très près tout au long de 2025 sur nos différents sites.
Surtout Félix.
Surtout Félix. Anthony, merci d'être passé, à plus.
À plus.
Nicolas, à la prochaine.
Salut.
Et nous on se dit à plus tard pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.